Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les printemps arabes ont révélé le rôle et le pouvoir des réseaux sociaux pour accompagner les revendications citoyennes, voire éveiller les consciences contre les régimes verrouillés de certains États arabes. De nouveaux médias indépendants sont apparus, issus très souvent de blogs personnels ou de pages d'influenceurs qui ont trouvé rapidement des milliers d'abonnés. Comment ce monde digital a-t-il évolué ? La liberté d'expression qui en a découlé s'est-elle normalisée ? Les fausses informations ont-elles proliféré et orienté les débats ? Orient Hebdo donne la parole à deux citoyennes de ce monde arabe digital. L'une est libanaise, l'autre tunisienne. Elles ont participé récemment à une table ronde sur ce thème à l'Institut du monde arabe à Paris. En seconde partie d'émission, nous retrouverons la revue de presse régionale Israël et monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Abir Rattas.
Bonjour Éric Bataillon.
Activiste et technologue, spécialiste de la sécurité de l'information pour Human Rights Watch à Berlin. Vous avez travaillé notamment pour la plateforme médiatique indépendante Razif 22, Razif 22 en français. C'est une plateforme qui a émergé lors des révolutions de 2011, comme d'autres, Madame Asser par exemple, en Égypte, dans le monde arabe donc. Comment expliquer cette soudaine émergence de médias indépendants et surtout, est-ce que ces médias ont perduré ?
Je pense qu'on a eu plusieurs déceptions après 2011. Les jeunes, et même qui ne sont pas des jeunes, ont perdu confiance dans les médias traditionnels et ils ont commencé à chercher une source alternative d'information qui leur représente, qui représente leurs idées, leurs espoirs. C'était le catalyseur, qu'on veut dire, pour la naissance de Razif 22, de Mada et d'autres plateformes.
Qu'est-ce que ces médias nouveaux, alternatifs, apportent de différent des médias traditionnels ?
D'abord, je pense qu'on n'est pas le porte-parole des États ou du système. On est beaucoup plus proche de notre société, de notre vie quotidienne. Et on est aussi beaucoup plus proche des rêves et des espoirs qu'on a, notamment vraiment après 2011.
Alors justement, en 2011, c'était des médias alternatifs. Est-ce qu'ils le sont encore aujourd'hui alternatifs ?
En 2019, je pense qu'on n'est plus des médias alternatifs. On est vraiment au centre de l'information. On est une source indispensable. Mais si on veut comparer aux médias traditionnels, on est toujours alternatif pour eux. Mais je pense que pour notre audience, pour les milliers et des milliers de lecteurs, on est vraiment le mainstream pour eux.
Alors justement, en devenant des médias un peu moins alternatifs et un peu plus installés, avec beaucoup plus d'audience, est-ce que cela a changé quelque chose pour le travail des journalistes ? Est-ce que les journalistes sont toujours aussi indépendants qu'ils l'étaient en 2011 ?
Je pense que oui. On est toujours indépendants, on est beaucoup plus professionnels. En 2011, c'était vraiment des blogueurs, des citoyens journalistes qui ont commencé ce travail-là. Mais là, c'est beaucoup plus formalisé, c'est institutionnel, mais d'une manière très indépendante, très révolutionnaire, si on veut dire, et progressive. On est toujours indépendant, oui, je l'espère.
Alors, il y a beaucoup de médias, de plateformes d'information aujourd'hui. Il y en a qui sont nés bien après 2011. On incite toujours les citoyens à s'exprimer sur les réseaux sociaux, notamment. Est-ce qu'il ne faut pas, malgré tout, mettre des garde-fous pour, évidemment, faire face, notamment aux fake news ?
Je pense que oui, ça c'est vraiment nécessaire à cause de fake news, à cause des trolls qui utilisent ces fake news. À mon avis, c'est une formation qui est journalistique à la base, qui donne les outils pour mieux transmettre une message, pour mieux écrire et pour, plus important, vérifier l'information. Ce qui ne fait pas les gens qui écrivent de la fake news et qui diffusent de la fake news.
Justement, comment découvre-t-on qu'une information est une fake news ? Est-ce qu'il y a des techniques ? Comment faites-vous, vous qui êtes chargé de questions de sécurité ?
Il y a pas mal de techniques où on utilise des logiciels informatiques pour vérifier une vidéo, c'est pas un deepfake ou une image qui est vraiment l'image d'une telle proteste et pas de l'autre. Mais le fait de vérifier l'information, ce qui est essentiel pour un journaliste professionnel, c'est ça ce qu'on fait ou qu'on essaye de faire d'une manière répétitive, d'une manière de le faire toujours en fait. Ouais.
Ces fake news, elles viennent d'où précisément? Est-ce qu'il y a des États qui sont spécialisés dans la fabrication de ces fake news, par exemple? Est-ce que ce sont surtout les États ou ce sont des groupes indépendants qui créent ces fake news?
Je pense que c'est des États, ou si ce n'est pas des États, c'est États sponsorisés. Dans les pays arabes, on a vu plusieurs cas, notamment en Arabie Saoudite et en Égypte, les trolls ou les gens qui utilisent les fake news et écrivent des commentaires sont très bien formés. Il y a des fermes, on les appelle les fermes de trolls, qui sont vraiment professionnelles, comme on dit. La Russie reste le numéro un dans le fake news au monde, je pense.
Et le Liban, par exemple, qui est votre pays d'origine, est-ce qu'il y a des fermes de trolls, par exemple? Sur la question des Syriens, des réfugiés syriens qui sont aujourd'hui dans le collimateur de la société, est-ce que là aussi on peut parler de trolls qui agissent?
Oui, malheureusement, les trolls, dans ce cas-là, au Liban, ce ne sont pas vraiment des inconnus. C'est notre gouvernement, c'est les gens qui font partie des plusieurs partis politiques au Liban. Ils diffusent des fake news sur les Syriens, sur les réfugiés syriens au Liban, ce qui cause de la violence en ligne, ce qui se traduit bien sûr de violence hors ligne.
Alors vous avez également travaillé à Bir Rataz pour le réseau de plateformes numériques Majal. Quel est l'objectif de cette plateforme et qu'est-ce qui motive son existence?
Alors Majal, c'est vraiment spécial. C'est une plateforme de mini-plateforme indépendante alternative qui amplifie la voix des minorités dans les pays arabes. Quand on dit minorité, on veut dire les minorités sexuelles, les minorités religieuses, les travailleurs migrants et aussi les musiciens alternatifs. Voilà, ça c'est Majal.
Mais alors, votre rôle, c'est de protéger les sites qui émergent et qui font vivre ces communautés?
Oui, c'est plutôt gérer tout le projet et faire sorte que les sites sont protégés contre les attaques de censure, de DDoS, comme on les appelle d'une manière technique. Ouais.
Vos adversaires, en l'occurrence, c'est qui est-ce? Les États?
Oui, malheureusement, un adversaire qui est très très fort et très très puissant et il a beaucoup de ressources, c'est les États. Parce que normalement, dans ce cas-là, le violeur lui-même des droits de ces gens-là, c'est les États et le système mis en place par ces États-là.
Alors on voit régulièrement émerger de nouveaux sites d'information pan-arabes, comme par exemple Mariana.com au Maghreb et donc au Maroc, qui a été lancé par la sociologue marocaine Sana El Hadji. Pourquoi pan-arabes plutôt que nationaux?
Parce que le combat, c'est le même partout. Les pays arabes, on a 22 pays arabes, ils sont vraiment différents, mais ils ont aussi beaucoup en commun. On a vécu pas mal de guerres, la corruption est partout, les gouvernements injustes, c'est partout. Et du coup, je pense avoir une plateforme qui relaie les histoires d'autres communautés et aussi crée un sens de solidarité pan-arabe, c'est nécessaire. Je pense que c'est pour cela que ça marche.
Pan-arabe pour lutter contre le conservatisme politique ou religieux ou social?
Oui, je veux dire, c'est un conservatisme religieux, social, qui à la fin devient politique parce qu'ils sont en pouvoir. Oui, c'est pour lutter contre ça.
Merci Bir Rataz, spécialiste de la sécurité et de l'information chez Human Rights Watch à Berlin.
Merci Eric Bataillon.
Bonjour Rima Srayer.
Bonjour Eric Bataillon.
Vous êtes activiste, chercheuse en sécurité digitale. Vous avez travaillé pour différentes ONG tunisiennes et internationales de défense des droits de l'homme, notamment concernant l'utilisation de la technologie pour le changement social. Justement, Rima Srayer, les outils numériques permettent-ils vraiment d'exister et de résister quand c'est nécessaire?
Alors, j'aimerais bien dire que la technologie n'est pas toujours la solution pour résister. La technologie est une partie de la réponse. Pour les activistes des droits humains, les journalistes d'opposition, les personnes, ce que j'appelle les communautés à risque, on se trouve dans cette ère digitale où on a besoin de s'exprimer en ligne et de s'exposer en ligne pour défendre son travail, pour parler des histoires que probablement on ne peut pas entendre sans la connexion Internet dans ces pays. On se trouve dans des situations où c'est nécessaire d'adopter quelques quelques méthodes, d'utiliser quelques applications qui étaient conçues pour ces cas très sensibles où on devrait être comme source anonyme, où on devrait garder, sécuriser une communication entre une organisation dans un pays où le régime n'est pas démocratique et un autre pays. Mais dans le travail que je fais, travail de recherche qui s'appelle Safe First Contact, donc premier contact sécurisé, nous avons découvert que la technologie elle-même n'est pas toujours la solution parce que il y a un travail qui manque de sensibilisation, le pourquoi on devrait utiliser ces technologies. Beaucoup des CONG ont été formés en sécurité numérique, mais ils ne continuent pas à appliquer les recommandations parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Parfois, ces applications qui sont plus sécurisées, des moyens qu'on utilise, par exemple, mon travail de recherche est concentré sur des pays du monde arabe. On utilise beaucoup Facebook, on utilise beaucoup les messengers sur Facebook. Les messages ne sont pas cryptés, les personnes ne peuvent pas être anonymes sur Facebook, c'est très facile à tracer. Et c'est très difficile de changer les comportements de l'audience ou des personnes qui ont besoin de l'assistance de ces organisations ou les sources pour, si on parle des médias, mais aussi de ces groupes eux-mêmes.
L'un des risques, c'est la désinformation et les fake news. Comment lutter contre ?
Lutter contre les fake news, c'est vraiment un sujet très d'actualité, mais depuis vraiment 3-4 années. Surtout, en fait, ce qu'on appelle les campagnes d'influence qui essayent d'influencer les élections. On pense toujours au 2016 et les élections présidentielles aux États-Unis et les campagnes organisées par les armées de trolls russes. Les fake news les plus dangereuses ne sont pas celles dirigées par les vraies personnes, mais celles dirigées par les vraies personnes et implémentées à travers des logiciels qui gèrent plusieurs comptes sur ces réseaux sociaux. J'ai récemment écrit un article sur le cas de 256 pages qui ont été créées par une compagnie israélienne pour influencer les élections dans différents pays de l'Afrique et inclut la Tunisie. C'était un effort pour des campagnes clandestines pour influencer des élections en utilisant un logiciel qu'on ne sent pas beaucoup de détails. Et Facebook a réussi, par exemple, à détecter le fait que c'est un comportement qui n'est pas authentique. Ce sont les expressions de Facebook. D'autre part, il est très important de sensibiliser les utilisateurs à ne pas s'informer en se basant à une photo et une description, mais avoir un petit sens de curiosité, d'investigation, regarder le site qui existe sur cette page Facebook. Je l'ai fait, par exemple, pour ces pages qui ont été supprimées par Facebook. Et une de ces pages qui s'appelle Tunis24, une page Facebook, est liée à un site web qui s'appelle aussi tunis24.net. Et ce site, on ne peut pas trouver, par exemple, qui sont les personnes qui le gèrent. On ne peut pas trouver le propriétaire. On ne trouve rien sur l'identité éditoriale. C'est clair que ce n'est pas quelque chose d'authentique et il faut vraiment avoir ces réflexes-là.
Merci Rima Srayer, chercheuse en sécurité digitale.
Merci beaucoup Eric Bataillon.
Orient Hebdo sur RFI.
La revue de presse croisée Israël et monde arabe. Nous retrouvons Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et Alexandre Bouchanté au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, l'annonce du nouveau gouvernement soudanais fait la une des journaux de Khartoum et de la presse panarabe.
Oui, le gouvernement de l'économiste Abdallah Hamdouk a été formé après de longues tractations avec le Conseil militaire souverain soudanais, c'est-à-dire la présidence, qui a progressivement cédé à la pression de la rue qui exigeait des civils pour tous les portefeuilles hormis la défense et l'intérieur. La presse souligne la présence de 4 femmes pour la première fois au Soudan et mieux encore, une ministre des Affaires étrangères. La Mauritanie était jusqu'à présent le seul pays arabe à avoir nommé une femme à ce poste, rappellent les journaux. Si la plupart des journaux soudanais sont optimistes, certains éditorialistes de gauche craignent que le Soudan ne finisse comme l'Égypte. Un gouvernement de civils, mais un conseil présidentiel militaire, puis un président civil destitué par les militaires, soutenu par une opposition populaire.
En Israël, c'est la dernière ligne droite avant les élections. Le sujet remplit les premières pages de vos journaux, Michel Paul.
Oui, Eric, nous sommes à tout juste 10 jours des législatives en Israël, et cela pour la deuxième fois cette année. Dans la presse, en cette fin de semaine, des sondages qui montrent toujours la même image. Les deux grands partis, le Likoud de Netanyahou et le rassemblement de centre-gauche bleu-blanc, dans un mouchoir de poche. Mais le bloc de la droite, selon ces études, progresse légèrement. À la une, la requête contestée du parti au pouvoir de mettre en place des caméras de surveillance dans les bureaux de votes arabes pour éviter les fraudes électorales et aussi les attaques du Premier ministre contre la presse. À retenir l'argument, selon l'opposition, que Benjamin Netanyahou pourrait faire valoir en cas d'échec le 17 septembre au soir, contester le résultat de la consultation et proclamer que les élections ont été volées.
Et que pensent vos journaux, Michel, d'un éventuel sommet Trump-Rouhani sous les auspices de la France ?
Eh bien, c'est la grande inquiétude en Israël à ce propos et mécontentement, notamment autour des efforts de la France pour amener Téhéran dans le chemin de l'accord. Yedioth Ahronot consacre un éditorial à ce sujet sous le titre « French Kiss ». La ligne pacifiste proposée par la France pour sauver l'Iran est une menace pour Israël, écrit l'auteur de l'article. Elle a déjà ajouté des dizaines de milliers de morts dans les conflits dans lesquels l'Iran est impliqué, en Syrie et au Yémen notamment. Il faut tout faire pour empêcher ce baiser de la mort, conclut l'éditorialiste.
Alexandre, des journaux arabes se font l'écho des menaces du président turc d'ouvrir ses frontières avec l'Europe aux réfugiés syriens.
Oui, si Erdogan en est arrivé à menacer l'Europe de déverser un flux de migrants, c'est à cause d'échecs diplomatiques et politiques, écrit l'éditorialiste Al-Quds Al-Arabi. Pour neutraliser les Kurdes de Syrie, il a tenté des négociations avec les Américains. Ça n'a rien donné. Il s'est tourné vers les Russes. Même résultat. À ces échecs diplomatiques s'est ajoutée la montée croissante de sentiments anti-réfugiés chez les Turcs, y compris ceux de son propre parti. Il ne reste plus à Erdogan qu'à tenter de tirer une aide économique du maillon le plus faible, c'est-à-dire l'Europe, conclut le journal.
8 films arabes à la Mostra de Venise, Alexandre, l'événement est couvert par de nombreux journaux.
Oui, et la raison principale, c'est que il y a 6 pays qui sont concernés, la Tunisie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie et les Émirats, ainsi que le Soudan, qui ont des films à la Mostra de Venise. Alors, des pays qui sont nouveaux, en tout cas pour certains, au niveau du cinéma, et puis il y a les journaux égyptiens qui insiste sur le fait que le Caire reste la capitale du cinéma arabe et évoque la possibilité de lancer un festival du film arabe après l'arrêt de celui de Dubaï. Reste à trouver les fonds.
Michel, vos journaux commentent encore les tensions à la frontière israélo-libanaise.
La presse israélienne continue effectivement d'analyser l'affrontement avec le Hezbollah en début de semaine à sa frontière nord. Selon les journaux, plusieurs commandos chiites étaient en position côté libanais et non pas seulement celui qui, en fin de compte, a ouvert le feu. Et également, on trouve un article dont le titre résume l'impréparation de la population civile dans les localités frontalières. Nous ne sommes pas prêts en cas de guerre.
Et rapidement, votre image de la semaine.
Eh bien, c'est la photo de Netanyahou aux côtés de Boris Johnson lors d'un voyage éclair à Londres, jeudi, à remettre dans le contexte, bien sûr, de la campagne électorale ici. Et Eric, la semaine prochaine, on peut déjà prévoir la photo de Netanyahou aux côtés de Vladimir Poutine, qu'il doit rencontrer lors d'une visite éclair à Sotchi.
Voilà qui fait un peu cliché. Merci Michel, merci Alexandre et merci à Mathias Golchani qui réalise ce nouveau numéro d'Orient Hebdo, numéro que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ou podcaster sur notre appli Pure Radio. Demain, nous parlerons de la rentrée scolaire au Liban dans les établissements gérés par la mission laïque française. Le directeur général de la mission, Jean-Christophe Debert, sera notre invité. À demain donc, tout de suite, un nouveau journal.